Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La canicule se généralise en France et commence à inquiéter les agriculteurs. Les fortes chaleurs risquent de stopper le développement des céréales, des légumes et des fruits. Analyse dans un instant Dan Lorchouin. Le temps que les Français consacrent aux séries et aux réseaux sociaux expliquerait en partie la baisse des ventes de livres en France. Le syndicat national de l'édition constate surtout le recul des romans, tandis que BD et livres jeunesse se portent bien. Double attentat dans la capitale tunisienne, un policier est mort. Par ailleurs, le président Essebsi est dans un état critique après un malaise. Nous joindrons Maureen Mercier à Tunis. Il faudra attendre pour visiter le tombeau des rois à Jérusalem. Ce joyau archéologique récemment rénové a été pris d'assaut par des juifs ultra-orthodoxes qui revendiquent le droit d'y prier. Les visites sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le Vaucluse, le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, quatre départements du sud de la France sont placés en vigilance rouge pour canicule, c'est inédit. 76 départements sont en vigilance orange et toute la France métropolitaine est concernée par cette vague de chaleur, à l'exception des côtes de la Manche et de quelques zones du sud-ouest. Conséquence, un pic de consommation estivale d'électricité a été atteint aujourd'hui. 225 écoles ont été fermées. La circulation différenciée reconduite à Paris et à Lyon a été mise en place à Marseille et à Strasbourg. Et puis le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a décrété, lui, plusieurs petites mesures comme l'interdiction du transport d'animaux pour quelques jours. Le secteur agricole a l'habitude de gérer les événements climatiques, mais ces épisodes de canicule qui vont devenir de plus en plus fréquents obligent à des adaptations plus lourdes, notamment pour les productions les plus sensibles à ces aléas, Anne Lorchouin.
Oui, les conséquences de cet épisode seront à évaluer précisément un peu plus tard dans la saison, mais ce qu'on peut craindre, c'est que les productions qui mûrissent en ce moment, les céréales notamment, ainsi que les herbes de prairies soient stoppées dans leur développement. On sait par exemple qu'une journée à 40 degrés limite la production d'une récolte de maïs, par exemple, de 7% sur toute l'année. L'herbe, elle, dépérit, ce qui a poussé plusieurs organisations d'agriculteurs à réclamer le droit de récolter sur leur terrain en jachère pour assurer un minimum de fourrage à leurs bêtes, faute de quoi ils devront importer ou compenser par des compléments alimentaires. Les légumes et les fruits pourraient aussi voir leur rendement diminuer également, ainsi que le vignoble. Cela signifie une production moindre, mais pas forcément une perte de revenus agricoles, puisque le prix de ces productions devrait mécaniquement augmenter. Alors, comment s'adapter? La recherche agronomique se penche déjà sur la question en essayant de sélectionner les semences les plus armées génétiquement pour supporter ce stress thermique. Semer plus tôt dans l'année pourrait être aussi une solution, en attendant peut-être d'ici la fin du siècle, si le climat continue de se réchauffer, de grandes migrations agricoles, c'est-à-dire par exemple la fin des céréales cultivées en dessous de la Loire. En ce qui concerne les productions animales, eh bien, ce sont les productions industrielles et hors sol qui souffrent le plus, les volailles notamment élevées en hangar. Lors de la canicule de 2003, entre 4 et 5 millions de poulets et de dindes étaient morts de chaleur, soit 2% du cheptel de l'époque. Les porcs, animaux qui ne régulent pas leur température, souffrent aussi particulièrement. Et là, c'est en termes de conditions d'élevage que doit se faire l'adaptation.
Anne Lorchouin. Didier Guillaume souhaite que tous les agriculteurs soient assurés contre les aléas climatiques. On en est très loin pour l'instant. L'assurance est beaucoup trop chère, constate le ministre de l'Agriculture, et les agriculteurs n'ont pas les moyens. Ils lancent donc une concertation avec le secteur de l'assurance et avec le monde agricole. Les chiffres de l'édition ne sont pas bons. Tout secteur confondu, le chiffre d'affaires du secteur a baissé de 4,4% l'an dernier. En 2017 et 2016, la baisse était beaucoup plus limitée. C'est surtout le secteur de la littérature qui accuse le coup, alors que les essais et les livres jeunesse progressent. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
Vous avez épluché le rapport annuel du syndicat national de l'édition qui donne ces chiffres et qui avance plusieurs explications.
Oui, premier facteur, les livres scolaires, les chiffres du secteur ne sont jamais stables, car ils dépendent en fait des réformes des programmes scolaires. Quand il y a réforme, le chiffre d'affaires est là, et inversement quand il n'y a pas de réforme, ce qui a été le cas à la rentrée 2018. D'ailleurs, si l'on neutralise l'édition scolaire, la baisse du chiffre d'affaires n'est que de 1,6%, pas de 4,4%. Les mouvements sociaux de la fin d'année, et notamment celui des Gilets jaunes, ont freiné aussi l'achat de livres à une période où les ventes sont traditionnellement fortes. Et puis le troisième facteur, et sans doute le plus évident, eh bien, il est directement lié à notre mode de vie. Pour Pierre Dutilleul, directeur général du syndicat national de l'édition, la concurrence première, c'est le temps. Celui qu'on l'on consacre à lire est passé de 5h45 par semaine dans les années 2000 avec le phénomène Harry Potter à peine 5h30 aujourd'hui.
Cette baisse de la lecture, elle est due au développement des séries les séries françaises et étrangères que l'on peut regarder à la télévision ou sur ses tablettes, et elles sont bonnes et de qualité, donc il y a des vraies raisons pour lesquelles une partie du temps est consacrée à ça. Il y a le temps consacré aux jeux vidéo, il y a le temps consacré à sa tablette en général et aux réseaux sociaux, et puis le développement de voyages lointains meilleur marché, qui font que pendant tout ce temps-là, on ne lit pas.
Mais il ne faut pas désespérer, dit Pierre Dutilleul, car à contrario, les plus grands utilisateurs des réseaux sociaux, les 15-25 ans, eux lisent de plus en plus, principalement des bandes dessinées et des mangas, mais peu importe, les essais et les documents d'actualité, eux aussi se portent bien. Citons le succès du Lambeau de Philippe Lançon, journaliste à Charlie Hebdo, ou celui des Leçons du pouvoir de François Hollande, rassurant pour le syndicat national de l'édition et qui prouve que les Français ont toujours soif d'apprendre.
Claire Flochel, de bonnes nouvelles concernant la musique française. Elle s'exporte de plus en plus et a connu une croissance de 6,7% à l'étranger en 2018, avec un chiffre d'affaires de 302 millions d'euros. Selon le bureau Export de la musique, ce sont le hip-hop et les musiques électroniques made in France qui marchent le mieux à l'étranger. David Guetta est l'artiste français qui cumule le plus de ventes à l'international. Derrière lui, deux autres habitués, Maître Gims et Jane, la Toulousaine désormais bien connue aux États-Unis. L'homéopathie ne doit plus être remboursée par la Sécu. C'est l'avis de la Haute Autorité de Santé qui sera rendu officiellement demain. Alors, quelle conclusion va en tirer la ministre de la Santé? Interrogée ce matin sur France 2, Agnès Buzyn a répondu que la décision pouvait attendre encore quelques jours. Le laboratoire Boiron, premier fabricant mondial de médicaments homéopathiques, a lui rapidement réagi. Il a fait suspendre son cours en bourse. Boiron assure qu'un déremboursement mettrait en péril 1000 de ses emplois. Pour la Sécurité sociale, quelles seraient les économies? On parle de 126 millions d'euros, l'homéopathie étant actuellement remboursée à hauteur de 30%. Mais pour le collectif Fake Med, qui mène l'offensive contre l'homéopathie depuis le printemps 2018, l'essentiel n'est pas là. Écoutez Cyril Vidal, chirurgien dentiste et membre du collectif.
Tout petit, j'ai été soigné à l'homéopathie. J'avais l'impression d'être en bonne santé, mais j'étais aussi en bonne santé parce que mes parents me disaient d'aller me coucher tôt, mes parents me nourrissaient sainement. Et c'est sûr, un environnement sain où on vous donne en plus des granules en vous disant « c'est efficace », ben vous prenez. Mais après, c'est pas plus efficace que l'effet placebo. Et toujours pareil, on fait confiance. Quand on le rembourse à 30%, ça laisse croire que c'est efficace. Quand des médecins vous le prescrivent, ça laisse croire que c'est efficace. Donc c'est normal que les Français disent « bah moi je pense que c'est efficace, j'en suis persuadé ». Et malheureusement, nous on veut que les gens soient informés. Aux États-Unis, sur les boîtes de granules d'homéopathie, vous avez marqué « attention, ça ne contient aucune substance active ». Que ça ait un effet placebo ou pas, au moins l'information transmise au patient, au départ, elle est juste. Et ça, pour nous, c'est très important. Dans notre démarche, on veut qu'il y ait une pratique evidence-based medicine, c'est-à-dire qu'on ait la médecine fondée sur la preuve. Enfin, je trouve ça important de mettre de l'argent dans les choses qui ont fait preuve de leur efficacité.
Mais le président de la Fédération française des sociétés d'homéopathie défend sa discipline. L'homéopathie fonctionne, assure Daniel Simeka, lui-même médecin généraliste. Plusieurs travaux scientifiques le démontrent, selon lui. Et il revient sur les enseignements de la dernière grande étude baptisée EPI3, conduite de 2005 à 2012 sur plus de 8500 patients.
Première leçon, c'est que nous avons le même profil de patients. Excite complètement l'idée que nous soignons des intellos, des enseignants qui finalement n'ont pas grand-chose. C'est pas vrai, nous soignons tous les types de populations exactement comme les médecins qui ont une approche classique. Et la deuxième leçon de cette étude EPI3, c'est que dans trois grands domaines, comme par hasard ceux qui impactent le plus la vie des Français, c'est-à-dire les douleurs, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les infections des voies aériennes, bronchites, rhinopharyngites, etc. Et puis, tout le domaine des troubles anxieux, dépressifs et l'insomnie. Eh bien, dans ces trois domaines, on ne lave pas plus blanc que les autres. On a les mêmes résultats, mais c'est déjà extraordinaire, parce que, dites donc, on se frotte aux antibiotiques, on se frotte aux anti-inflammatoires, aux antalgiques. C'est des médicaments qui sont quand même des médicaments majeurs. Eh bien, on fait pareil, mais, avec les effets secondaires en moins, avec les effets induits en moins, effets induits, c'est-à-dire on a mal au genou et puis on soigne le genou, on se retrouve avec mal à l'estomac. Donc lorsqu'on nous dit que l'homéopathie n'a pas un service médical rendu suffisant, je ne comprends pas.
Daniel Simeka de la Fédération française des sociétés d'homéopathie, propos recueillis par Tara Schlegel, notre spécialiste santé. L'Académie nationale de médecine demande un plan de mobilisation nationale pour la psychiatrie à l'image de ce qui a été fait pour le cancer. Dans un rapport, elle juge indispensable une évolution radicale des investissements en recherche et de l'offre de soins. Elle demande en particulier que la recherche en psychiatrie devienne une priorité de santé publique. Il y a un an, la ministre de la Santé a présenté une feuille de route pour améliorer les conditions de vie et l'accès aux soins des personnes souffrant de troubles psychiques. Et puis une refonte des modalités de financement de la psychiatrie doit être engagée à partir de 2020, mais à enveloppe constante. Élèves et enseignants en situation de handicap doivent être accompagnés de façon plus transparente et plus humaine. C'est l'un des grands thèmes du rapport de la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Catherine Becchetti-Bizot s'est penchée sur la carrière des personnels et sur le parcours des élèves handicapés. Et elle constate, Hakim Kasmi, que l'on ne prend pas assez en compte la diversité des situations.
Oui, problème de recrutement, de planning, d'affectation ou de mobilité, les enseignants handicapés doivent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, comme Philippe Calvo, non-voyant, professeur d'histoire-géographie au lycée Charles-Gide à Uzès, dans le Gard, qui chaque année doit trouver un nouvel assistant pour l'aider à manipuler les documents comme les cartes en classe, mais aussi à corriger les copies des élèves.
Moi, je suis non-voyant, j'ai besoin d'un assistant pour écrire au tableau, pour travailler aussi sur Pronote, qui est notre logiciel que tous les profs connaissent à l'échelle nationale, qui n'est pas accessible aux travailleurs handicapés visuels. Donc déjà, ça, c'est un vrai souci. Bon, alors après, au quotidien, je sais que pas mal de gens ont des difficultés aussi par rapport au recrutement de l'assistant, qui n'est pas toujours évident. À Paris, c'est peut-être plus facile, et encore, mais dans certains cas, c'est assez compliqué.
Mais les difficultés concernent aussi les élèves en situation de handicap, notamment pendant l'aménagement de leur tiers-temps lorsqu'ils passent leurs examens. Catherine Becchetti-Bizot, la médiatrice de l'éducation nationale.
Les élèves 10, qu'on appelle les 10, les dyslexiques, qui ont des aménagements accordés de manière légale pendant leur scolarité, c'est-à-dire avec un projet personnalisé qui les concerne. Au moment des examens, l'année où ils doivent passer un examen, on ne leur accorde plus les mêmes. Ce qu'avait proposé mon prédécesseur et que j'ai ressoutenu d'année en année, c'est le fait qu'il y ait une continuité systématique entre ce qui est accordé pendant la scolarité et ce qui est accordé pendant les examens, et que cette continuité, elle se matérialise par un projet personnalisé qui, à N-1 au moins, voire -2, prévoit déjà les aménagements qui auront lieu, qui seront mis en place lors de l'examen.
Le ministère de l'Éducation nationale emploie 35 000 personnes en situation de handicap, mais n'atteint pas le minimum de 6% de salariés handicapés.
Hakim Kasmi, une quinzaine d'élus Les Républicains ont dîné avec Marion Maréchal avant-hier soir à Paris. L'ancienne députée du Rassemblement national plaide pour une union des droites. Elle l'a déjà dit plusieurs fois, il ne s'en cache plus. Mardi, elle a notamment dîné avec des parlementaires, avec qui elle a discuté de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, de la privatisation des aéroports de Paris ou encore des suppressions de postes chez General Electric. Mais au sein du parti Les Républicains, cette rencontre provoque des crispations, Pauline Pénanec.
Oui, à commencer par le patron des LR lui-même, Jean Leonetti. Chez nos confrères du Figaro, il qualifie la démarche d'inacceptable. Réponse cinglante à Laurent Saillet, la porte-parole du parti, qui a estimé ce matin sur Public Sénat que chacun était libre de dîner avec les uns et les autres. Mais les collusions avec le RN sont inacceptables. Éric Tegner, lui, reste impassible. Je ne vois pas où est le mal, nous répond-il. Membre très actif chez les jeunes du parti, c'est lui qui a organisé ce dîner.
Moi, je considère qu'on peut tout à fait dialoguer avec des gens qui ne font pas partie de notre famille politique, d'autant plus s'ils ont les mêmes idées. Marion Maréchal, on le voyait bien, n'avait aucune différence avec Julien Aubert, Bruno Retailleau ou encore Guillaume Larrivé. Donc pourquoi s'interdire de lui parler? Et c'est là où effectivement ça a été un déclic.
Alors il n'a pas été question d'alliance, précise-t-il, simplement d'un débat d'idées. Mais ce n'est pas anodin pour Julien Dive, il est député LR de l'Aisne.
Ces personnes, en allant déjeuner avec Marie-Maréchal Le Pen, ont franchi une ligne jaune. Marie-Maréchal Le Pen, c'est le Rassemblement national, faut pas se tromper, faut pas se leurrer, faut pas raconter d'histoire. Aller à un dîner, avoir un débat, c'est une démarche qui est beaucoup plus poussée qu'une simple discussion de couloir. C'est répondre à une invitation. On peut être libre de le faire, mais on ne peut pas le faire en tant que responsable d'un mouvement. Moi, je considère que parce qu'ils occupent, pour certains d'entre eux, des responsabilités dans l'organigramme du parti, ils doivent démissionner de ces responsabilités.
Alors, les intéressés Français, à commencer par Sébastien Meurant, sénateur LR du Val-d'Oise, mettent en avant la liberté de parler avec qui l'on souhaite. En tout cas, du côté de la présidence des Républicains, Jean Leonetti le dit, l'appartenance au parti implique une totale étanchéité à toute alliance avec l'extrême droite. Pas d'exclusion donc pour l'instant, mais tous sont rappelés à l'ordre.
Pauline Pénanec. Commerce, économie, environnement, climat, pétrole iranien, voilà les grands dossiers qui seront demain au menu du G20. Les chefs d'État et de gouvernement des principales économies mondiales arrivent à Osaka, au Japon. Emmanuel Macron espère que ce sommet permettra d'éviter une escalade militaire entre l'Iran et les États-Unis. Il compte aborder ce sujet demain avec le président américain. Autre sujet de préoccupation pour le chef de l'État, le climat. Il tient à ce que le communiqué final mentionne l'accord de Paris et met la pression sur ses partenaires. Julie-Marie Lecomte, vous étiez avec le chef de l'État dans le train qui le conduisait de Tokyo à Kyoto.
Évidemment, Emmanuel Macron assure qu'il fera tout pour éviter un échec, mais il le dit tout net, pas question de laisser dire qu'il est allé à l'autre bout du monde avec un bilan carbone discutable, qu'il a quitté la France pendant 4 jours pour mettre sur une page des mots qui ne serviraient à rien. Pour lui, la canicule qui touche actuellement le pays est certes marginale, mais elle contribue à faire bouger les opinions publiques. Lui qui avoue avoir la foi des convertis récents, considère que les États qui ne veulent pas de l'accord de Paris sur le climat commettent une erreur fondamentale, historique et morale. Je ne veux pas d'accord de commerce avec des gens qui ne le suivent pas, lâche-t-il. Emmanuel Macron vise nommément le Brésil. Il rencontrera ici à Osaka son homologue Jair Bolsonaro, climato-sceptique, et tenter d'emboîter le pas aux États-Unis pour sortir de l'accord. Pas question, dit-il, de demander aux agriculteurs français de sortir des pesticides, à nos entreprises d'émettre moins de CO2, d'entamer leur compétitivité pour finalement faire entrer des produits en provenance d'un pays qui ne respecte rien. Fini les airs concernés, sans tirer les conséquences. Emmanuel Macron sait que la partie est serrée, mais il est bien décidé à engager le bras de fer.
Julie-Marie Lecomte, notre envoyée spéciale au Japon pour le G20. Deux attentats perpétrés aujourd'hui à Tunis, l'un à proximité de l'ambassade de France, l'autre devant un complexe de la garde nationale. Les explosions, œuvre de 2 kamikazes, ont entraîné la mort d'un policier et 8 personnes ont été blessées. On retrouve Maureen Mercier dans la capitale tunisienne.
Une voiture piégée a pris pour cible les forces de l'ordre. Un policier tué, 4 blessés. L'autre attaque a eu lieu quasiment simultanément. Un homme s'est fait exploser devant les locaux de la direction antiterroriste de la caserne de Gorgeni. 4 blessés parmi les forces de l'ordre. Il y a eu plus de peur que de mal, déclaration d'un des responsables du gouvernement qui ajoute que plusieurs cellules terroristes ont pu être démantelées ces dernières semaines. En Tunisie, ce sont les forces de l'ordre qui sont la cible principale des attaques terroristes. L'état d'urgence est constamment renouvelé depuis 2015, année où le pays avait été très durement touché avec les attaques du musée du Bardo et de la plage de Sousse, qui avaient fait des dizaines de victimes, parmi lesquelles de nombreux touristes européens. Ces attaques ont fait 1 mort, mais elles tombent alors que le début de la saison touristique doit démarrer. Les Tunisiens craignent des vagues de désistement et des conséquences économiques désastreuses pour le pays.
Peu après ce double attentat suicide à Tunis, on apprenait que le président Essebsi avait été victime d'un grave malaise et se trouvait dans un état critique. Des rumeurs ont rapidement circulé sur la mort du chef de l'État tunisien âgé de 92 ans, rumeurs démenties par le pouvoir. Aussitôt ouvert, aussitôt refermé, le consulat général de France à Jérusalem voulait ouvrir aux visiteurs le site du tombeau des rois. C'est l'un des sites archéologiques majeurs de Jérusalem, placé dans la partie annexée de la ville. Il date du 1er siècle et renfermerait le tombeau d'une reine convertie au judaïsme. Après une longue période de rénovation, le consulat général voulait permettre à de petits groupes de visiteurs de découvrir le site sur réservation. Mais des juifs religieux ont tenté d'entrer en force, Étienne Monin.
Au pied du drapeau français devant le portail sombre du grand site archéologique, les ultra-orthodoxes ne sont qu'une 20aine, mais ils incarnent avec leurs prières de ce matin l'état de forte tension entretenue autour du lieu. Jonathan Franck est l'un des hommes en noir. Il refuse les règles de visite imposées par le consulat général pour la réouverture.
Ça fait partie de notre histoire. Là où des juifs saints sont enterrés, on vient prier. C'est presque comme une synagogue. Tout ce qu'on veut, c'est entrer, 10-15 minutes, prier et sortir. On n'essaye pas de prendre le contrôle. On ne veut pas s'installer ici. Tout ce qu'on veut, c'est prier.
Le tombeau des rois est aujourd'hui un site disputé. Des rabbins en Israël et une association en France ont lancé des procédures. Ils revendiquent le caractère religieux du site et ils contestent le droit de propriété. Jonathan Mizrahi est israélien. Il dirige une organisation d'archéologues opposée à l'occupation.
Ce conflit autour du tombeau des rois est un mélange de sentiments religieux et d'intérêts politiques. l'intérêt des colons pour avoir un meilleur accès à ce quartier palestinien. Il y a plusieurs justifications pour la colonisation, mais l'une d'entre elles, c'est justement la présence de ces tombes avec des figures juives. C'est central dans le conflit.
Le tombeau des rois est dans le secteur palestinien annexé de Jérusalem. Il est l'un des quatre domaines nationaux gérés par la France.
La France qui a donc décidé de suspendre les visites suite à ces incidents. Et puis je vous donne cette dernière information. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, demande au préfet de renforcer la surveillance des lieux de culte du pays après que deux personnes ont été blessées par balle cet après-midi devant une mosquée de Brest. La situation est en cours d'évaluation par la section antiterroriste du parquet de Paris. Demain vendredi, de la grisaille le matin sur la façade atlantique, après quoi le soleil brillera partout. Les températures minimales iront de 13 à 15 degrés sur l'extrême nord, mais de 22 à 24 sur la vallée du Rhône et de la Provence. L'après-midi, il fera 26 à 39, localement 40 sur le centre et l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est sur le sud-est que la chaleur sera la plus accablante, avec 42 à 44 degrés en général, voire très localement 45 degrés à l'ombre. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.